Mes bien-aimés frères et sœurs, où est le Seigneur? Où est la présence de Dieu? Le Seigneur Dieu, où se trouve-t-il? Au ciel? À Jérusalem? À Rome? Partout? Nulle part? Dans les pierres? Dans les souvenirs? Dans un écrit? Dans la nature? Voici, je viens à vous. Voici, je viens à vous dans la personne d'un homme, mon fils bien-aimé. Voici, je me tiens à la porte. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Voici, je suis avec vous. Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Où est le Seigneur? Il vient à nous, il se tient à la porte, il est avec nous. Alors, où que vous soyez aujourd'hui, recevez la grâce et la paix de la part de Dieu et de Jésus-Christ qui nous aime et nous conduit. Je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, nous recevons ce jour nouveau de tes mains, avec la confiance d'un enfant. Que toutes nos pensées et toutes nos œuvres soient pour toi seul, toi qui veux demeurer en chacun de nous. Amen. Oui Seigneur, nous savons que tu es à nos côtés et nous voulons te louer et chantons. Chantons, nous avons vu les pas, arc-en-ciel 320.
Nous avons vu les pas de notre Dieu, croiser les pas des hommes. Nous avons vu brûler comme un grand feu pour la joie de tous les pauvres. Quand viendra-t-il marcher sur nos chemins, changer nos cœurs de semer au creux des mains l'amour et la lumière. Nous avons vu fleurir dans nos déserts les fleurs de la tendresse. Nous avons vu briller sur l'univers l'aube d'une paix nouvelle. Quand viendra-t-il marcher sur nos chemins, changer nos cœurs de pierre? Quand viendra-t-il semer au creux des mains se
Mes bien-aimés frères et sœurs, Pâques est aujourd'hui derrière nous et nous marchons maintenant vers la Pentecôte. Une période propice à des réflexions et méditations importantes pour nous faire avancer individuellement sur la place que nous voulons donner à l'Esprit Saint. Nous avons entamé cette semaine, pour certains d'entre nous en tout cas, un début de déconfinement, mais pour beaucoup de personnes, c'est toujours un esprit de saisissement qui entrave les pensées. Les peurs peuvent être justifiées, mais doivent-elles paralyser nos vies et emplir notre être? Un texte ancien du 1er siècle rapporte une parole de Jésus qui répondait aux apôtres, qui lui demandaient comment pouvoir le suivre. Le Seigneur répondit « En vérité, je vous le dis, personne n'entrera dans le royaume des cieux si je lui en donne l'ordre, mais parce que vous êtes emplis. Quant à vous, laissez-moi Jacques et Pierre afin que je les emplisse. » Alors, mes frères et sœurs, chassons les craintes du moment qui nous remplissent, afin que nous nous emplissions de l'Esprit Saint, puisque c'est une des caractéristiques pour connaître le royaume. Et croire aux cieux, au royaume, transforme la vie. Les valeurs matérielles s'effacent et ne sont plus prioritaires. La peur dans la mort disparaît. Le bonheur devient synonyme d'amour et de spiritualité. Alors, que ce temps que nous vivons ne soit pas un temps de doute, mais un moment de fortification dans la foi. Si le muscle devient de plus en plus fort car on contraint régulièrement par l'effort, alors ce que nous vivons aujourd'hui devrait renforcer notre âme et nos certitudes pour goûter un jour au royaume. Nous entendrons aujourd'hui le pasteur Luc Lukusa aborder le sujet important de l'Esprit Saint. Alors, pourquoi ne pas mettre à profit la semaine qui vient et ce temps toujours partiellement en confinement pour prier et invoquer notre Père Céleste de bien vouloir nous emplir de cet esprit de bonté et de sainteté. Tournons-nous, mes frères et sœurs, vers celui en qui nous devons reconnaître toute la grandeur et la gloire. Chantez avec moi, pour l'assurer de notre fidélité, le cantique « Ô Dieu, tu es grand ». J'aime 870.
Gardage en âme.
Mais bien aimés frères et sœurs, les temps incertains sont toujours ces périodes qui nous font douter de tout. Nos oreilles grandes ouvertes, nous nous laissons troubler le cœur et l'âme. Et voilà que pourrait s'installer en nous le manque de confiance en Dieu. Et cela débouche inévitablement sur le manque de confiance en soi. Et vous le savez bien, ceux qui manquent de confiance en eux ont peu d'impact dans leur vie et celle des autres. Mais quels disciples du Christ voulons-nous être ? Une personne sans influence, qui a peur de toucher les cœurs et témoigner en confiance chaque jour ? Vous le savez peut-être, sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, il y a ce que l'on appelle la grande mode des influenceurs, qui vous conseillent dans bien des domaines et qui vous inciteront certainement à l'achat de quelques bons produits sur leurs recommandations. Mais je veux dire ici que moi aussi, nous aussi, nous voulons influencer. Disciples du Seigneur Jésus et remplis du Saint-Esprit, nous sommes nés pour influencer. Pardon Seigneur d'avoir manqué de confiance en toi. Prions ensemble. Seigneur Dieu, nous confessons que nous ne voulons pas confesser notre péché par peur de révéler profondément qui nous sommes, à toi notre Dieu, aux autres et à nous-mêmes. Nous préférons ne pas reconnaître nos failles, nos inconséquences, mais aussi nos certitudes d'être dans le vrai, notre belle assurance de façade. Plutôt que de te reconnaître cela et de nous ouvrir à ta grâce, nous nous replions sur nous-mêmes sous couvert de bonne conscience et de légitime protection de nous-mêmes. Aujourd'hui, ton regard d'amour et de pardon exige que nous reconnaissions que nous ne voulons pas reconnaître notre suffisance. Aie donc pitié, deux fois pitié, notre Seigneur, et emplis-nous de ton Saint-Esprit. Amen. Assurons Dieu de notre reconnaissance et repentance, et chantons « Je te donne tout, j'aime 864 ».
Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu, c'est l'offrande de mon cœur, je suis à toi, Jésus. C'est toi,
tout est à toi,
tout à toi.
Je vous invite maintenant dans un temps de louange. Celui-ci sera suivi d'un message de David à destination des enfants. Nous régalons de ces histoires depuis quelques semaines et je suis heureux de voir mon propre fils l'attendre avec impatience. Louons ensemble. Oui Seigneur, du fond de mon être, je sais que tu me vois. Je gravis chaque mot qui m'approche de toi. Je conserve en moi-même un petit coin caché, lieu de nos face-à-face jalousement fermés. Par des flots de tendresse, tu as consolidé ce refuge de l'âme où rien n'est abîmé. Du fond de mon être, je réapprends la vie. Je prie, je loue, je danse et sans fin, je te bénis. Chantons et louons le Seigneur notre Dieu. Nous chantons « Dieu, tu es bon, j'aime 901 », suivi de « Bénissez le Seigneur, j'aime 558 ».
Nous allons louer le Seigneur, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia.
tu es. Nous
enfants. Ce matin, j'aimerais partager avec vous une histoire qui est présente dans la Bible. Il s'agit de l'histoire de la prise de la ville de Jéricho par le peuple d'Israël. La connaissez-vous ? Pour introduire cette histoire, je vais faire un rappel rapide de l'histoire biblique jusque-là. Il y a bien longtemps de cela, Dieu a appelé un homme pour qu'il le suive, Abraham. Et Dieu lui a promis que s'il le suivait, il recevrait un pays, deviendrait le père d'un peuple très nombreux et serait une bénédiction pour tous les peuples. Et Abraham suivit Dieu. Les années passent et Dieu accomplit envers Abraham une de ses promesses. Abraham est devenu le père d'un grand peuple, les Israélites. Mais ce peuple n'avait pas encore de pays. Il était même retenu en esclavage dans le pays d'Égypte. Alors, Dieu fit sortir son peuple de ce pays et le fit voyager pendant 40 ans pour arriver à Canaan, le pays que Dieu avait promis à Abraham. Pendant tout ce voyage, le peuple était guidé par Moïse et à sa mort, c'est Josué qui en devint le chef. J'en arrive à présent à mon histoire. Vous la trouverez dans votre Bible, en Josué, au chapitre 2 à 6. Le peuple d'Israël passe 40 ans dans le désert. Puis Dieu les conduit dans le pays qu'il leur a désigné. Là se trouve la ville de Jéricho. Elle est entourée de grosses murailles et gouvernée par un roi. Josué, le chef des Israélites, est un homme fort et courageux. Il a confiance en Dieu et Dieu est avec lui. Il envoie en secret deux hommes pour connaître le pays et la ville de Jéricho. Les deux hommes arrivent à la ville le soir et vont passer la nuit dans la maison d'une femme nommée Rahab. Alors le roi envoie des soldats dire à Rahab, « Les hommes qui sont chez toi viennent pour espionner. » Mais Rahab cache les deux hommes. Elle dit aux soldats, « Les hommes sont repartis à la tombée de la nuit, quand on fermait la porte de la ville. Mais si vous vous dépêchez, vous pourrez les rattraper. » Les deux Israélites restent cachés, mais ils doivent vite retourner à leur campement. La maison de Rahab est située contre le mur de la ville. Elle fait donc descendre les deux hommes avec une corde. Elle leur dit, « J'ai agi avec bonté envers vous. Jurez-moi que vous aussi, vous agirez avec bonté envers ma famille. Vous ne permettrez pas que nous soyons tués. » Les hommes lui répondent, « Nous le jurons. Quand nous entrerons dans le pays, tu attacheras cette corde rouge à ta fenêtre. Puis, tu rassembleras ta famille dans ta maison. » Ensuite, il retourne auprès de Josué. Les Israélites arrivent devant Jéricho. Les portes de la ville sont bien fermées. Dieu dit à Josué, « Je vous livre Jéricho. Pendant 6 jours, faites le tour des murs de la ville sans faire de bruit. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour des murs de la ville. Ce jour-là, les murs tomberont. » Les Israélites font ce que Dieu a dit. Le 7e jour, ils font 7 fois le tour de la ville. Les prêtres soufflent dans leurs trompettes et les autres poussent le cri de guerre. Les murs de la ville tombent, comme Dieu l'a dit, et les Israélites prennent Jéricho, tout en protégeant Rahab et sa famille. En vous partageant cette histoire, je voulais mettre en avant le fait que les êtres humains, les hommes, les femmes, les enfants, tout le monde, nous aimons nous construire des protections pour tenter de nous mettre à l'abri, contrôler notre vie et garder tout ce qui nous appartient. Dans l'histoire que nous avons vue, cette protection était une grande muraille que les gens avaient construite pour se protéger derrière. Mais la Bible explique que tout ce que nous installons autour de nous pour nous protéger est insuffisant. Ces choses ne peuvent pas véritablement nous protéger. La Bible explique qu'il n'y a qu'un seul moyen par lequel nous pouvons être véritablement protégés. Et ce moyen, c'est Dieu. Et pour vous en donner la preuve, j'aimerais vous lire un extrait du psaume 46. Je vais lire les versets 2 à 8 dans la nouvelle version de la Bible en français courant. Je lis. Dieu est pour nous un abri sûr, un secours toujours prêt dans la détresse. C'est pourquoi nous n'avons rien à craindre. Même si la terre se met à trembler, si les montagnes s'écroulent au fond des mers, si les flots grondent, bouillonnent, se soulèvent et secouent les montagnes, il est un fleuve dont les bras répandent la joie dans la cité de Dieu, dans la demeure réservée au Très-Haut. Dieu est dans la cité, elle tiendra bon. Dès que le jour se lève, il lui apporte son secours. Des peuples grondent, des royaumes s'ébranlent. Dieu donne de la voix et la terre vacille. Le Seigneur de l'univers est avec nous. Le Dieu de Jacob est notre forteresse. Alors, comment parle-t-on de Dieu dans ce psaume ? On dit que Dieu est un abri sûr, un secours toujours prêt dans la détresse, une forteresse, un protecteur capable de nous protéger même lorsque tout s'effondre. On parle même de lui comme d'un fleuve qui répand la joie. Alors, ce matin, j'aimerais inviter chacun à essayer de se rappeler de tout cela tous les jours de sa vie, dans les bons moments comme dans les moments difficiles. Appuyons-nous sur Dieu dans tout ce que nous faisons. Faisons-lui confiance pour nous protéger et nous guider. C'est lui, notre véritable abri. C'est lui, notre forteresse. Je vous invite à la prière.
Les amis, qu'est-ce qu'on fait quand on veut prier ?
On joint les mains, on baisse la tête, on ferme les yeux et on parle à Dieu.
Père éternel, Père tendre, merci parce que à travers cette histoire, tu nous rappelles qui tu es pour nous. Tu es un abri, un réconfort, un protecteur chaque jour dans notre vie. Merci Seigneur parce que tu nous protèges et parce que tu nous gardes. Merci parce que tu prends soin chaque jour des personnes que nous aimons, nos amis que nous ne voyons plus depuis, nos familles. Merci parce que tu es là. Seigneur, aide-nous chaque jour, dans chaque situation que nous vivons, qu'elle soit heureuse ou triste, à te faire confiance totalement. Aide-nous, Seigneur, à faire de toi notre priorité. Comme dans l'histoire, Père éternel, nous voulons compter sur toi, uniquement sur toi, et nous croyons, Seigneur, que tu chemines avec nous. Merci, Père éternel, de veiller sur nous, d'être un abri sûr, d'être un protecteur sûr. Au nom de Jésus. Amen.
Entrons maintenant dans le temps de la parole. Disposons nos cœurs en priant. Père, toi qui par ton esprit assemble les croyants en tout lieu de ce monde, inspire celles et ceux qui parlent et rend attentifs celles et ceux qui écoutent, afin que l'Évangile soit la vérité de notre foi, la source de notre amour, la fermeté de notre espérance. Nous te remettons également notre pasteur qui prêche aujourd'hui, inspire-le par ton Saint-Esprit et que tes mystères nous soient à tous ici révélés. Nous te le demandons dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. La lecture du jour se trouve dans l'Évangile de Jean, dans le Nouveau Testament, le chapitre 14, versets 15 à 26. Jean, chapitre 14, versets 15 à 26. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur, pour qu'il soit avec vous pour toujours, l'Esprit de la vérité, que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, parce qu'il demeure auprès de vous et qu'il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viens à vous. Encore un peu, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, parce que moi, je vis, et que vous aussi vous vivrez. En ce jour-là, vous saurez que moi, je suis en mon Père, comme vous en moi, et moi en vous. Celui qui m'aime, c'est celui qui a mes commandements et qui les garde. Or, celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. Judas, non pas l'Iscariote, lui dit « Seigneur, comment se fait-il que tu doives te manifester à nous et non pas au monde ?» Jésus lui répondit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure auprès de lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas la mienne, mais celle du Père qui m'a envoyé. Je vous ai parlé ainsi pendant que je demeurais auprès de vous. Mais c'est le Défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, qui vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que moi, je vous ai dit. Seigneur Dieu, nous te remercions pour cette parole que nous venons d'entendre et nous te louons en entonnant. Chantons ensemble. Souffle, souffle, j'aime. 501.
Frères et sœurs en Christ, un regard en avant nous signale que nous sommes à seulement deux dimanches de la célébration de la Pentecôte. Dans la logique des textes qui sont proposés à notre méditation, nous devons déjà nous préparer de manière particulière à remettre sur le devant de la scène le Saint-Esprit. C'est étrangement dans le discours d'adieu, appelé parfois testament du Seigneur à ses disciples, que nous avons commencé à plonger nos regards depuis dimanche dernier. Dans ce fameux discours qui commence au chapitre 13 et qui se termine au chapitre 16, trois maîtres mots dominent le discours. L'amour, la foi et l'espérance. Ce sont donc là les trois valeurs que l'apôtre Paul a soulignées pour dire qu'elles demeurent. L'amour est décliné dans Jean 13 comme service. Pensez au lavement des pieds des disciples par Jésus le Seigneur. Tandis que dans le texte d'aujourd'hui, il est aussi question de l'amour, mais en tant qu'obéissance à l'enseignement de Jésus. Ce qui apparaît aussi dans ce discours, c'est de manière claire les trois personnes de la Trinité en interaction entre elles et avec les humains. Le Fils n'arrête pas de parler de sa communion avec le Père et de son amour du Père. Dans un moment d'intimité inégalé dans le Nouveau Testament, nous avons cette prière du Fils à son Père dans Jean 17. C'est un petit peu au-delà du discours d'adieu. Le Fils parle aussi du Saint-Esprit comme don du Père aux humains à la demande du Fils. Le Fils parle de la Trinité dans son engagement vis-à-vis de l'humanité, dans son union avec les hommes et les femmes. Tout cela n'est pas anodin. On voit toute la Trinité impliquée et engagée dans la relation afin de permettre aux hommes de vivre pleinement l'amour, la foi et l'espérance. Toutes ces valeurs évoquées si haut, à savoir l'amour, la foi et l'espérance, constituent la marque distinctive de la vie chrétienne, et cette dernière n'est pas que des vérités extérieures à proclamer, mais une vie à vivre, une expérience humaine réelle en communion avec le Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. Dans l'enseignement de Jésus, le Saint-Esprit est incontournable pour qu'une vie avec Dieu soit pleinement vécue. Parce que le Saint-Esprit, le Paraclétos, autrefois promis, aujourd'hui déjà donné à l'humanité croyante, à la Pentecôte, nous a fait accéder à une vie nouvelle en Christ, nous sommes en droit de nous poser la question: quelle expérience faisons-nous de la mission du Saint-Esprit telle qu'en parle Jean 14? Nous avons relevé, en étudiant ce texte, trois qualificatifs donnés à l'Esprit, à savoir le Paraclétos, l'Esprit de vérité et l'Esprit Saint. Nous allons examiner la mission particulière de chaque qualificatif et nous allons nous interroger comment nous, disciples et Église, faisons aujourd'hui l'expérience du ministère du Saint-Esprit tel que relaté dans Jean 14. Ce sera donc trois points. La mission de l'autre Paraclétos, la mission de l'Esprit de vérité et la mission de l'Esprit Saint. Venons au texte du jour, c'est-à-dire Jean 14, la portion que nous avons lue. De quoi est-il question? En voici un bref résumé. Au cœur de la relation entre Dieu et les hommes, il y a l'amour. C'est pourquoi le thème est récurrent dans la bouche de Jésus. Il dit alors à ses disciples: « Si vous m'aimez, vous vous appliquerez à observer mes commandements. » Notez qu'il n'est pas question ici de l'amour-sentiment, mais bien de la volonté de mettre en pratique la parole du Seigneur. Il est donc question de nourrir son être tout entier de l'enseignement de Jésus, de s'en abreuver. Si vous le faites, dit Jésus, en retour vous découvrirez l'amour du Père et de son Fils qui se manifestera, et ceux qui l'aiment le connaîtront vraiment. Lui, Jésus, qui connaît toute l'importance de sa présence auprès de ses disciples, leur promet qu'il ne les laissera pas orphelins. Il va prier le Père afin qu'il leur donne un autre Paraclétos, mot difficile à rendre autrement qu'en paraphrasant. J'y reviendrai tout à l'heure. Encore une fois, avant d'aller plus avant, disons un mot sur le Saint-Esprit chez Jean, l'apôtre. Comme vous le savez, ce n'est un secret pour personne, chaque témoin présente un aspect de la réalité sur le Saint-Esprit. Luc, Paul, Jean et les autres, chaque témoignage complète les autres. Ne nous enfermons donc pas uniquement dans la pneumatologie, c'est-à-dire dans l'étude du Saint-Esprit de Luc ou de Paul. Notre approche se priverait alors des autres richesses. Jean, en ce qui le concerne, est différent dans sa sensibilité quant à l'Esprit-Saint. On remarque qu'il n'évoque pas les manifestations visibles extérieures de l'Esprit-Saint. Il veut avant tout nous aider à intérioriser les événements relatifs à la vie et à la personne de Jésus ou à la dispensation de l'Esprit. Il ne nous parle pas en termes de charisme ou de prophétie, sinon pour nous mettre en garde contre les faux prophètes. Et nous trouvons cela dans la première épître de Jean, au chapitre 4, le verset 1. Ce qu'il souligne, c'est que l'Esprit est destiné à habiter et à demeurer dans le cœur du croyant pour y porter des fruits de l'amour. Cela reste malgré tout l'œuvre du Saint-Esprit. C'était une vue globale de Jean sur le Saint-Esprit. Venons-en au texte du jour. Le premier point que nous allons voir dans notre méditation, c'est un autre paraclétos. Jésus dit « Je prierai le Père afin qu'il vous donne un autre paraclétos ». Pourquoi Jésus parle-t-il d'un autre paraclé ou paraclétos? Dans les dires de Jésus, les disciples connaissent le paraclé, le paraclétos. Ils l'ont déjà vu, dit Jésus. Il est auprès d'eux et il demeure en eux. En même temps, il leur promet. Ça semble un petit peu étrange. Qu'est-ce que cela signifie donc? Jésus lui-même est un paraclet au vu de son rôle à côté de ses disciples. Les disciples entendent Jésus et voient ses œuvres. Lui qui a l'esprit sans mesure, en fait, il voit l'esprit à travers Jésus. C'est peut-être pour cela qu'il dit du Saint-Esprit qu'il est un autre paraclet, un autre lui-même, avec la différence que lui, Jésus, dans son incarnation, s'est volontairement limité dans le temps et l'espace, tandis que l'autre paraclétos, l'autre paraclet, sera toujours avec eux, sans limite d'espace et de temps. Voilà la petite explication sur un autre paraclet. Et moi, dit Jésus, je demanderai au Père de vous donner un autre paraclet afin qu'il reste pour toujours avec vous. Il y a deux choses à dire là-dessus. La première, c'est que l'homme reçoive le Saint-Esprit est une grâce, un don de Dieu, d'après la promesse de Dieu dans l'Ancien Testament. Souvenons-nous de Joël, d'Ézéchiel et de Jérémie, par exemple. Et ici, le Saint-Esprit est un don en réponse à la prière de Jésus qui a estimé que la vie de Dieu, la vie du royaume qu'il nous a révélé et apporté, est impossible à vivre sans l'aide du Saint-Esprit. Tout est grâce, aucun mérite personnel, aucune raison de se vanter. La deuxième chose à dire, nous notons que Jean est le seul à utiliser le terme « paraclétos » dans tout le Nouveau Testament, où il apparaît 5 fois, dont 4 fois appliquées au Saint-Esprit dans l'Évangile de Jean et 1 fois à Jésus dans l'Épître. Alors que signifie ce mot « paraclétos » ben, littéralement, il signifie « celui qui est appelé à côté d'eux » ou même celui qu'on appelle à son secours. C'est du moins un sens du verbe parakaleo. Mais on pourrait tout aussi bien le traduire par avocat, défenseur, intercesseur, consolateur. L'Esprit de Dieu est donc celui qui est donné aux disciples et à l'Église pour les aider dans leur vie et dans leur mission. Ce paraclétos, celui qui se tient à côté d'eux, soutient, secourt, défend dans le témoignage et parfois dans le procès que le monde fait à Jésus. Frères et sœurs, la présence du paraclétos s'est manifestée tout au long de l'histoire mouvementée de l'Église à travers 1001 péripéties. Si l'Église était seulement une organisation humaine, il y a bien longtemps qu'elle aurait déjà disparu. Quelques exemples qui nous montrent que l'Esprit est intervenu pour aider l'Église, justement, à poursuivre sa vie et sa mission. Dans le livre des Actes au chapitre 6, il y a une tension entre les chrétiens juifs et les chrétiens hellénistes. En Actes 15, pour régler les tensions sur la doctrine, le Saint-Esprit est là, comme il était là au chapitre 6, où il a donné toute la sagesse aux apôtres pour régler le problème qui existait. Le Saint-Esprit a donné sagesse afin que l'unité soit préservée. Paul, devant des tribunaux, sa mission en Macédoine, montre que l'Esprit l'a conduit. Le Paraclet était là à côté de lui pour le soutenir, pour le guider, pour l'encourager. L'eunuque éthiopien et sa rencontre avec Philippe. Là aussi, nous voyons le Paraclet intervenir. Et on peut multiplier ainsi des exemples à l'infini. C'est grâce à la présence du Paraclétos, c'est-à-dire de l'Esprit, de l'assistant, qu'elle tient debout cette Église primitive. Elle a été secourue pendant des périodes de persécution à travers l'histoire. Hommes et femmes ont encouru des peines énormes et ont risqué leur vie dans des dangers multiples. Beaucoup y ont laissé leur vie. Le sang des martyrs n'a pas découragé les chrétiens qui sont demeurés fidèles à leur Seigneur. Et puis l'Église clandestine a survécu à toute tentative d'extermination et d'extinction de toute voix qui parlerait au nom de Jésus. Le Paraclétos a guidé l'Église au travers des crises externes et internes. Dieu est demeuré fidèle à son alliance. La grande question que nous pouvons nous poser aujourd'hui, c'est de se demander s'il en est de même pour l'Église aujourd'hui. Entend-elle toujours la voix du Paraclétos? Parce que lui n'a pas arrêté de soutenir, de guider, d'encourager. Sur le plan individuel, la présence du Paraclétos est assurée à tout chrétien. Chacun de nous, pour peu qu'il soit attentif, peut témoigner de la présence du Seigneur dans les petites choses. C'était donc notre premier point, un autre Paraclétos. Le deuxième point qui qualifie l'Esprit, c'est l'Esprit de vérité. L'Esprit vous conduira dans toute la vérité, il vous enseignera tout ce que je vous ai dit. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ici, il est important que nous puissions parler de la porte d'entrée dans la relation avec Dieu, qui demeure la conversion et la justification. Ce passage nécessite l'action de l'Esprit de vérité. Par la lecture des Écritures, d'un texte de la Bible, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, éclaire notre entendement. Quand au-delà du texte, nous entendons une parole qui nous touche, nous bouleverse, nous éclaire, nous interpelle, nous déstabilise peut-être, nous fait pleurer, nous rassure, nous encourage, c'est bien l'œuvre de l'Esprit de vérité. Par illumination intérieure, le Saint-Esprit nous révèle la vérité sur Dieu, sur l'homme, sur la situation de l'homme et sur l'amour de Dieu pour lui, mais aussi sur le Fils, comme le Fils nous révèle le Père. Et cela nous permet de recevoir Jésus comme notre sagesse, notre justice et notre sanctification. Et je cite là quelques... Ce sont des choses qui ne sont montées au cœur de l'homme, mais que Dieu nous a révélées par l'Esprit. Ces choses ne peuvent être certifiées que par l'Esprit. Encore un autre extrait de l'Écriture, « Nul ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est par l'Esprit. » Et là où est l'Esprit, là aussi est la liberté. Oui, la liberté, c'est-à-dire le pouvoir de se saisir de la vérité, d'obtenir sur Dieu, sur nous-mêmes et sur la création entière une vision toute nouvelle. C'est l'expérience que font des milliers de personnes pour lesquelles Dieu devient réalité. Je pense à plusieurs années en arrière, quand dans une crise existentielle, j'ai commencé à chercher Dieu sans savoir où le trouver. Puis je fis la rencontre d'un ami qui se mit à me parler de Dieu et de son expérience vécue avec le Seigneur. Des milliers des paroles qu'il avait prononcées, une seule a retenu mon attention parce qu'elle m'a bouleversé et m'a mis en mouvement. Cette parole, c'est une parole du prophète Jérémie où Dieu dit « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Cette parole m'a bouleversé, m'a mis en mouvement et je partis dès lors à la recherche de Dieu et ma vie ne fut plus la même depuis ce temps-là. Je suis sûr que chacune et chacun d'entre nous peut en dire tout autant. En fait, l'Esprit de vérité nous convainc que sans lui, Dieu et sa parole vont demeurer rigoureusement incompréhensibles. Nous sommes alors dans une détresse intellectuelle, spirituelle ou morale. C'est dans cet angle mort que le Paraclet, l'Esprit de vie, l'Esprit de vérité, nous assure que la voie est ouverte, que Dieu peut être connu. C'est au moment où cette conviction s'impose à nous que l'Esprit agit positivement et de manière consolante pour nous dire que la voie vers Dieu est ouverte. Comprenons-nous, frères et sœurs, que la vraie conversion est l'œuvre de l'Esprit de vérité? Nous sommes nous-mêmes ce que nous sommes en Christ parce que l'Esprit de vérité nous avait conduits vers Jésus-Christ. Alors, rendons grâce à Dieu pour notre salut. Dans tous les cas, la prière doit porter toute notre action d'évangélisation et de témoignage. Car c'est la prérogative de l'Esprit de vérité. Inutile d'agresser les gens s'ils résistent à notre témoignage. Tournons-nous vers l'Esprit de vérité. L'Église et tout chrétien doit associer à son témoignage, à quelque niveau que ce soit, la prière afin que le Saint-Esprit illumine les cœurs et fasse naître de nouveau et d'esprit. L'Esprit de vérité conduit les disciples vers la vérité. Il exauce la prière du psalmiste qui disait « Conduis-moi vers la vérité ». Ce vœu intense fait écho à la tradition biblique de la voie du Seigneur qu'il faut connaître et dans laquelle il faut marcher pour avoir la vie. Dieu en est le guide. Cette tradition attribuait la traversée de la mer Rouge à l'esprit de Yahvé. Je cite « L'esprit descendit d'auprès du Seigneur et les guida ». C'est à la vérité tout entière que l'Esprit conduit. Serait-ce là simplement une autre manière de faire entendre que le Paraclet enseignera tout ce que je vous ai dit? C'est en effet souvent au terme de sa vie qu'un homme est pleinement compris. Si avec la mort de Jésus a lieu la clôture de son discours terrestre, avec l'Esprit s'opère une compréhension globalisante des éléments épars dans le dire et aussi dans l'agir de Jésus. En plus de cette illumination du passé de Jésus, il y a dévoilement de son présent qui est celui du Fils glorifié en Dieu. Dans un autre langage, c'est la seigneurie du Christ Sauveur que le Père a établie au-dessus de tout nom qui puisse. Cette seigneurie de Christ est même célébrée dans l'épître aux Philippiens comme dans l'épître aux Colossiens. Il ne s'agit pas de ces vérités multiples auxquelles l'esprit conduirait progressivement. Ce passage ne signifie pas que l'esprit garantira les formulations dogmatiques de l'Église. Ce qui est visé, c'est la vérité une et totale du Christ glorifié en Dieu et se communiquant comme tel aux humains. Et je cite ici un passage de l'Évangile. Celui-ci, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. En effet, il ne parlera pas de son propre chef, mais il vous dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous communiquera ce qui va venir. Lui, il me glorifiera, car de moi il recevra, et il vous le communiquera. Tout ce qu'a dit le Père est mien, et pour cela j'ai dit. De mon bien, il reçoit, et il vous communiquera. Fin de citation. Pour guider vers la vérité, l'Esprit parlera ou exprimera. C'est-à-dire que l'Esprit ne produit pas de vérité autre que Jésus. Il pousse le croyant à reconnaître le Père au travers du Fils. Il n'apporte pas de révélation inédite, mais il donne vie et actualité à ce que Jésus a dit et fait. L'histoire de l'Église, comme la vie religieuse de notre temps, sont menacées par des hommes et des femmes qui se lèvent pour apporter de prétendues révélations nouvelles que l'Esprit leur aurait soufflées. Ils risquent d'en abuser beaucoup. Or, le texte est clair, l'Esprit actualise, rend présent, malgré l'absence, la parole de Jésus. Il fait surgir de la Bible, écriture simple, qu'on peut même parfois dire figée dans la froideur du papier et éloignée par l'histoire, le Saint-Esprit fait surgir une parole vivante qui devient parole de Dieu pour nous aujourd'hui. Lorsque la bouche du Maître se tait, un autre, un paraclet poursuit l'œuvre en ne cessant d'actualiser pour le croyant les paroles jadis prononcées. Je tiens à rappeler la fidélité du paraclet quant à l'écriture du Nouveau Testament. Ce dernier, c'est-à-dire le Nouveau Testament, a été écrit plusieurs années après Pâques et Pentecôte. C'est donc le Saint-Esprit qui leur a rappelé tout ce que Jésus avait dit quand il était encore sur la terre. Si le dire de Jésus vient à cesser, son parler qui équivaut à révéler continuera de se faire entendre par la médiation de l'Esprit. Le parler de l'Esprit ne vient pas en effet de sa propre autorité, exactement comme Jésus ne parlait pas de son propre chef. L'Esprit entendra de Jésus comme Jésus lui-même entendait du Père. Son parler ne touche sans doute pas les oreilles comme le faisait la parole de Jésus, mais il atteint le cœur. Le Fils prolongera sa révélation sous un mode différent, spirituel, que précise le troisième verbe caractérisé par la fonction du paraclet. Si l'Esprit exprime ce qu'il entend du Fils, c'est pour le communiquer. Le verbe grec anangelein comporte essentiellement le sens d'amorcer, de dévoiler une chose inconnue. L'Esprit sera donc l'expression de Jésus. Venons-en maintenant à notre dernier point dans les qualificatifs donnés à l'Esprit, le Saint-Esprit. L'Esprit Saint interviendra avec toute sa puissance pour agir au-dedans de nous, pour nous sanctifier, c'est-à-dire pour nous transformer progressivement afin que nous nous rapprochions de l'image de Christ. Fondamentalement, l'Esprit Saint se sert de la parole de Dieu pour agir dans l'être profond du chrétien, pour transformer sa vie. Daniel Bourguet, pasteur, enseignant, ermite qui a redécouvert les pères du désert, me permet de résumer cette méditation par le travail que l'Esprit accomplit en nous. Il y a un travail souterrain, enfoui, qui est accompli en nous et dont nous n'avons pas tout le contrôle parce qu'il est invisible comme les racines d'un arbre. Tentons une explication, malgré tout, d'imaginer le parcours de la parole conjointe à l'Esprit Saint pour parvenir à la sanctification. L'enfouissement de la parole jusqu'aux extrêmes profondeurs de notre être se fait en trois paliers inséparables. L'affectif, le cérébral et le plus profond qu'on ne sait pas nommer. C'est peut-être ce que la Bible appelle le cœur ou l'âme. L'affectif. Souvent, le premier contact de la parole dans une vie concerne l'affectif, l'émotionnel. L'adhésion première à la parole est affective, avec beaucoup de chaleur ou de larmes parfois, mais sans une grande profondeur. Le cérébral, deuxième étape, deuxième palier. Il y a une mise en ordre de la foi par l'intelligence. La foi est raisonnée, éclairée, expliquée. L'adhésion à la parole intègre la réflexion. L'évangélisation de l'être s'arrête à la tête, ce qui ne donne pas encore une grande profondeur. À ce stade, le risque est tel que on risque de finir par scruter la parole, par l'analyser, par la maîtriser et parfois même par la manipuler. Nous mettons la parole à notre service, alors que c'est à elle de nous mettre à son service et de mettre la main sur nous. Et puis il y a le troisième palier, le plus profond. Après la conversion émotive et la conversion cérébrale de l'être, il y a encore tout le reste à convertir. Nos désirs, nos comportements, nos habitudes, nos manières de servir, d'espérer, d'aimer. Tout l'inconscient que la parole atteint aussi au point de guérir des blessures profondes. Ici, la parole conjointe à l'esprit va plus loin. Elle nous forme, mais surtout, elle nous transforme, et cela de plus en plus profondément. La profondeur, c'est laisser la parole utilisée par le Saint-Esprit prendre possession de notre être souverainement. La parole nous évangélise alors, nous fortifie, nous nourrit, nous guérit, nous pacifie, nous purifie, nous sanctifie, nous ouvre aux autres et à Dieu. La parole qui grandit en nous en profondeur, c'est tout un travail. Mais attention, il ne s'agit pas d'un travail sur nous-mêmes, de type nombriliste, narcissique ou égoïste. C'est Dieu lui-même qui poursuit son travail en nous, par sa parole, vivifiée par le Saint-Esprit. C'est un travail d'illumination, de guérison, de transformation, de purification, de transfiguration, bref, de sanctification. La sanctification, ce n'est pas se sanctifier soi-même, ce n'est pas notre œuvre, c'est être sanctifié par Dieu, se laisser sanctifier par sa parole. C'est l'œuvre de Dieu, avec notre accord, notre approbation, l'acquiescement de notre volonté. La parole s'enfuit aussi en secret dans nos vies, pour grandir dans le secret de la prière, dans le secret de la méditation de la parole de Dieu, dans le secret d'une vie humble. Ce caractère secret de l'approfondissement est un bon antidote contre toutes les bouffées d'orgueil. C'est la sanctification qui fait que nos vies vont parler et refléter le Christ par le fruit que produira le Saint-Esprit. Et cette œuvre est permanente jusqu'au retour de notre Seigneur dans sa gloire. C'est donc une riche expérience à vivre ici et maintenant. Frères et sœurs, nous venons de voir que nous ne pouvons pas nous passer de l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit est un don de Dieu en réponse à la prière de Jésus. Il est en nous et auprès de nous, présence active du Dieu vivant, révélée en Jésus-Christ. Il est souffle de Dieu, qui a été donné lors de la première Pentecôte pour nous maintenir en éveil. Ce Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, nous mobilise, nous pousse à l'action et nous met en mouvement, écartant et repoussant toute indifférence, toute quiétude, toute passivité, toute négligence. Ce Saint-Esprit donné et renouvelé nous appelle, nous interpelle à la sanctification sous son égide, car il reste à l'œuvre d'une façon fidèle et dynamique dans le monde, dans l'Église et en chacun de nous. Il reste à l'œuvre et il nous met à l'œuvre. Nous sommes alors tous concernés, que nous le voulions ou non. Il aiguise en nous une certaine curiosité qui nous empêche précisément de tourner la page. Ce Saint-Esprit, puissance déconcertante, révolutionnaire, continue encore aujourd'hui à saisir les hommes avec force de conviction et puissance. Il continue à saisir l'homme et à le transformer. Il continue à l'empoigner et à faire de lui un homme nouveau, créant en lui un cœur nouveau. Voulez-vous le laisser transformer votre vie, la rendre plus proche de la stature du Christ en produisant son fruit? Soyons reconnaissants au Saint-Esprit pour son œuvre dans nos vies, car tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, tout ce que nous savons de Jésus et qui a bouleversé notre vie, qui a changé notre existence, est son œuvre. Oui, c'est l'œuvre de l'Esprit. Toute l'œuvre de subjectivisation du message du Christ, qui réduit la distance entre Jésus historique et nous, c'est grâce à son œuvre. C'est lui qui actualise, qui fait que nous lisons les Écritures et que nous sommes touchés. C'est lui qui actualise l'œuvre de Jésus aujourd'hui. Alors, nous pouvons tout simplement dire « Merci Seigneur pour ton Esprit Saint, l'Esprit de vérité, le Paraclétos, l'Esprit qui nous sanctifie. » Amen.
Chers frères et sœurs, je vous invite maintenant à confesser notre foi et chantons « Nous croyons, j'aime 371 ».
Thank you.
Je vous invite maintenant à prier et à intercéder avec moi le Seigneur. Seigneur, tu es notre refuge de génération en génération. Les rêves, les saisons et les nations passent, mais tu demeures. Tu es le gardien du temps et de l'éternité. Ce monde dans lequel tu nous as placés, nous te l'apportons ce matin. Entends nos prières. Pour ceux qui sont fatigués, déprimés, sans sommeil, nous te prions, Seigneur. Pour ceux qui ont faim, les malades, ceux qui ont peur, nous te prions, Seigneur. Pour ceux qui ne connaissent pas ton amour, en Jésus-Christ, nous te prions, Seigneur. Pour les autorités de notre ville, de notre région, de notre pays, nous te prions, Seigneur. Pour la paix du monde entier, nous te prions, Seigneur. Et pour nous-mêmes, pour que nous ne renions pas Christ, que nous soyons plus prêts à nous oublier nous-mêmes, que nous ne laissions pas le soleil descendre sur notre colère, que nous vivions dans la confiance que ce monde est entre tes mains. Amen. Nous arrivons à la fin de ce culte audio. Nous avons quelques annonces à vous faire. Nous vous encourageons à maintenir le contact les uns avec les autres par les moyens à notre disposition, téléphone ou internet. Prions aussi les uns pour les autres. Prions pour les patients du coronavirus, le personnel soignant, parmi lequel nous avons aussi beaucoup de frères et sœurs de la communauté. N'oubliez pas enfin que, malgré cet éloignement, notre Église doit poursuivre sa mission dans le monde. Si nous ne pouvons pas faire de quête, il vous est possible de faire des dons directement sur le compte de l'Église que vous trouverez sur le site internet à l'adresse www.eeu.be. Merci d'avance. Je laisse maintenant la place à notre pasteur Luc Lucoussa pour l'exhortation et la bénédiction. Bon dimanche.
Nous allons recevoir la bénédiction et puis recevoir des paroles d'envoi. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez, frères et sœurs, et soyez parmi les humains des témoins du Dieu d'amour. Allez dans la paix et la joie du Christ ressuscité. Amen.
Tout son pardon.